France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Philippe Cassard.
Je m'appelle Michel Béroff. Je suis né le 9 mai 1950 à Épinal. Et je suis pianiste.
Vous sortez du conservatoire, Michel Béroff, vous vous présentez au concours de Royan 2 ans plus tard,
un an après.
Le prix à Royan, ouais. Est-ce qu'il vous lance?
Oui, on peut quand même dire que tout est parti de là. En fait, ce prix à Royan, bon, il y avait beaucoup de gens, évidemment, du milieu de la musique contemporaine, mais il y avait aussi des agents de concert, il y avait pas mal de gens. C'est vrai que c'était un festival très important à Royan à l'époque. C'était un festival où toutes les créations étaient faites, les grandes œuvres à Royan. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été une rampe de lancement. Bon, mis à part le fait, évidemment, de trouver, d'avoir un agent de concert qui était Maurice Werner tout de suite, qui m'a pris sous son aile. Ensuite, c'est vrai que très vite, comme j'avais joué avec le domaine musical pour la finale, les eaux exotiques de Messiaen, j'ai joué beaucoup avec le domaine musical et Gilbert Ami en tournée et en France. Donc, on a fait beaucoup de concerts. Très, très vite, il y a d'autres personnes qui étaient à Royan, dont une femme grecque, mais qui habitait à Londres, qui s'était un petit peu entichée de moi, qui voulait faire des choses, donc qui m'a fait venir à Londres pour donner un récital où je jouais la sonate de Liszt. J'ai peut-être joué un peu de Messiaen quand même. J'ai joué un programme comme ça, très, très panaché.
Vous avez été repéré à Londres, par exemple? Ça a donné des
articles?
Oui, bah
oui. Ah oui, il y a eu des articles. Enfin, déjà, parce que tout de suite, j'ai fait un premier disque après le concours pour EMI. C'était mon premier disque pour EMI, le Quatuor pour l'Infa du Temps. Donc, c'était des membres du Mélos Ensemble.
Avec oui. Eric Grunberg.
Eric Grunberg, William Pleas.
Gervase de Payet,
oui. Qui est un magnifique clarinettiste. Oui. C'était une œuvre qui était relativement peu enregistrée à l'époque. Donc voilà, c'était.
Et vous avez des souvenirs de cet enregistrement?
Oh oui, moi je me souviens très bien que j'ai été voir Messiaen avant de l'enregistrement et que Messiaen m'a indiqué, j'ai toujours d'ailleurs sur la partition, quelques détails de dynamique qui ne sont pas dans la partition et qu'il faut essayer de corriger. Donc Messiaen était toujours comme ça. Par exemple, il mettait toujours des nuances qui étaient très très basses. Et il voulait toujours qu'on joue plus fort, parce que lui voulait entendre un petit peu plus les harmonies, les couleurs, entendre les couleurs, effectivement. Donc, il y avait toujours cette espèce d'inflation, enfin, pas inflation sonore, mais il voulait toujours monter les niveaux. Et puis, des petits détails rythmiques. Mais c'est vrai que je me souviens bien l'enregistrement. Ça s'est fait d'ailleurs à Abbey Road, les fameux studios des Beatles, entre autres, mais enfin, dans lesquels j'ai fait d'autres enregistrements après.
Mais alors, par exemple, vous arrivez, vous avez 18 ans, ouais. Vous enregistrez ce quatuor pour la fin du temps avec pratiquement 3 légendes.
Ouais, ouais.
Vous avez les indications de Messiaen, ouais. Celles qu'il vous a rajoutées. Vous avez pris la parole, vous avez dit mais Messiaen m'a dit telle et telle chose.
Absolument, j'ai expliqué que j'avais Messiaen. Ils étaient tout à fait...
Ils étaient ravis.
Oui, ils étaient ravis. Étant donné que j'arrivais, la semaine d'avant, j'étais avec Messiaen, donc je n'avais pas de raison. Puis je n'ai pas non plus dit des choses extravagantes. Hein. Je n'ai pas changé complètement les tempi et tout. Je n'ai rien dit non plus. Enfin, l'abîme des oiseaux pour clarinette seule. Enfin, voilà, c'était juste des petits détails. Mais ça a permis déjà de créer une espèce d'intimité musicale plus grande.
Et votre premier disque solo?
Ah oui, c'était le disque du concours. C'était une maison qui s'appelait Irama, qui est une maison hollandaise. Et donc, c'était un disque, voilà, c'était, je crois que c'était du Bartók Messiaen. Voilà, j'ai dû faire la suite en plein air, puis la sonate de Bartók, et puis quelques regards de Messiaen.
Et à l'époque, vous jouiez une, deux prises, vous faisiez beaucoup, beaucoup de prises. Vous vous souvenez de ça?
Non, enfin, je pense que j'en ai fait de plus en plus avec le temps. Et tout en me disant, c'est le contraire qu'il faudrait faire. Je me souviens, Yvonne Loriot m'avait dit, voilà, pour peut-être ce premier disque, voilà, moi je découpe comme ça, je fais tac, 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 trois grandes prises, et puis après je fais pof, des petites vignettes, des petits montages. Et finalement, c'est pas si mal que ça d'avoir au départ un plan d'enregistrement, parce que sinon, mais bon, on est quand même limité, même si on était beaucoup plus généreux autrefois avec les temps d'enregistrement qu'aujourd'hui, on est limité par le temps.
Michel Béroff, dans ces années, on va dire entre 13 et 18, 19 ans, est-ce que vous aviez le temps d'aller au concert? Et qui aimiez-vous aller écouter au concert?
J'étais à une époque beaucoup, donc j'ai quand même écouté beaucoup, beaucoup de concerts, parce que ça me paraît très, très important, effectivement, d'abord d'écouter des géants. Et j'ai un souvenir d'ailleurs à propos de Messiaen, de la Tour Galila, qui était dirigé par Maurice Leroux avec Jeanne Loriot et Yvonne Loriot dans les parties d'ondes et de piano. Et j'étais avec mon père parce qu'évidemment, j'ai encore quasiment les marques de sa main qui tellement il était ému et tellement il y a des moments évidemment d'exaltation phénoménale dans cette œuvre. Si on n'y est pas sensible, on n'est pas sensible, mais quand on est sensible à ce langage, il y a des choses aussi bien extatiques que d'une joie, d'une... Et donc, il me serrait la main et j'ai encore presque mal. Mais bon, ça, c'est un souvenir parmi d'autres. Mais j'allais quand même écouter, je me souviens d'avoir été écouter Gilles aussi, Richter, Kempf aussi.
Et vous aimiez? Vous l'avez aimé?
En Kempf, oui, j'ai entendu beaucoup. Enfin, j'ai entendu en concert, j'aimais beaucoup. Oui, oui.
Parce que ce qui est étonnant, c'est que quand on lit la première critique que vous avez eue à vos débuts parisiens, c'est Claude Rostand qui la signe pour Le Monde. Et il mentionne Kempf en vous écoutant jouer la sonate pathétique de Beethoven.
Oui. Mais bon, c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup Kempf. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration et beaucoup d'émotion pour le personnage aussi qui me touchait beaucoup.
Vous l'avez approché, cela dit?
Non, j'ai dû aller voir après un concert, mais j'étais jeune.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Michel Béroff.
J'ai été écouté effectivement aussi à pas mal Georgi Shebok, qui était donc un professeur que j'ai failli avoir, que j'ai eu très très peu, en 1962, juste avant de retourner au conservatoire de Paris. Et mon père, donc, il l'avait rencontré à propos de ce festival d'Épinal dont il préparait les chœurs. Et il était venu à la maison, il m'avait entendu, il avait dit voilà, qu'il était disponible puisqu'il était en France, depuis qu'il avait quitté, évidemment, comme la plupart des Hongrois en 1956, Budapest. Donc j'ai commencé à prendre à Paris deux cours avec lui. Et puis au bout de deux cours, il a dit à mon père qu'il avait une mauvaise nouvelle, enfin une mauvaise nouvelle pour moi, pas pour lui, mais qu'il allait partir. On l'avait invité pour aller enseigner à Bloomington, aux États-Unis, mais de toute manière, il ne fallait pas que je m'inquiète, ça allait durer une année et qu'il allait revenir, continuer à donner des cours. Effectivement, il a passé sa vie comme professeur à Bloomington, et je l'aurais trouvé à Bloomington, je sais pas, 40 ans plus tard, 30 ans plus tard, quand j'étais enseigné. C'était un magnifique pianiste, un magnifique musicien, et je me souviens, par exemple, d'une chose qui m'a terriblement frappé, parce que j'ai toujours été quand même quelqu'un d'assez obsédé par le fait d'être prêt, de travailler suffisamment. Et lui, je me souviens, un jour, il faisait un récital où il jouait un concerto à Paris. Il était sur une croisière, sur un bateau, il n'avait pas touché son piano pendant une semaine. Il est arrivé, il a répété, il a fait son concert qui était magnifique. Il m'a dit que tout se passait dans la tête, c'était pas la peine de travailler, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Malheureusement, je pense pas que j'ai pris un petit peu sa capacité à ne pas travailler avant les concerts, mais c'est vrai qu'il avait une espèce de décontraction. Il est devenu d'ailleurs un vrai gourou quand il était à Bloomington.
Et des chefs d'orchestre, vous avez des souvenirs de...
Des chefs d'orchestre qui m'excitaient beaucoup quand j'étais à cet âge-là. Vous voyez, Kondrachine, j'aimais beaucoup. Enfin, j'aimais aussi Kondrachine beaucoup à cause du fameux enregistrement du troisième concerto de Prokofiev avec Bagon Ranis que j'écoutais quand j'étais jeune en me disant un jour, voilà, je vais jouer ça. C'était quasiment mon rêve de pouvoir jouer ce troisième concerto de Prokofiev que d'ailleurs...
Beaucoup de jeunes pianistes voilà, ont été dans
que d'ailleurs, j'ai joué, j'ai dû apprendre ça en 15 jours puisque dès que je suis rentré au troisième cycle, il y a eu des concerts qui ont été faits immédiatement avec les gens qui avaient intégré ce troisième cycle. Et donc, je suis rentré au mois d'octobre et j'ai dû faire le concert à la salle de notre conservatoire avec ce troisième concerto de Prokofiev. Donc, j'étais déjà... Une partie du rêve s'était réalisée. Voilà. Mais c'est vrai que d'autres chefs d'orchestre, j'étais pas... J'écoutais des pianistes, en fait. Les chefs d'orchestre, c'était plus tard. C'est plus tard que c'est venu.
Vous alliez à l'opéra ?
À cette époque, non. J'y étais plus tard, beaucoup. Enfin, beaucoup, relativement. Mais à cette époque, non. L'opéra, ça a commencé, oui, quand finalement, pas avant 25 ans.
Michel Béroff, quand vous commencez vraiment cette carrière, on est étonné aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les comptes rendus ou vos interviews, tout de suite vous passez à un rythme de croisière quasiment de 100 concerts par an. Enfin, c'est pratiquement, pas d'un jour à l'autre, mais presque.
Ça a été effectivement très rapide. C'est vrai qu'après ce prix au concours Messiaen, mon père, qui encore une fois voyait un petit peu ce qui se passait, qui n'avait pas non plus de connaissance de ce que c'est qu'une carrière musicale, mais bon, avec sagesse, m'a dit qu'il fallait prendre un petit peu de temps, il fallait pas se jeter comme ça à corps perdu dedans, et qu'il fallait, pendant quelques années, avoir un rythme de concert qui soit modéré. En plus, après le concours Messiaen, je suis retourné au conservatoire pour faire la classe d'analyse de Messiaen. Donc là, j'ai continué quand même à travailler. Mais c'est vrai que derrière, ça poussait un petit peu. Donc j'ai fait quand même quelques concerts à cette époque. Et assez rapidement, il y a eu l'épisode Boulez. C'est-à-dire que je ne sais pas d'ailleurs, je me demande par quelle voix Boulez m'a invité la première fois. C'est peut-être par Messiaen ou Yvon Loriot, à mon avis, c'est ça. C'est vrai que quand Boulez m'a invité au New York Philharmonic deux ans après, j'avais joué juste avant avec Bernstein à Londres, et ils se parlaient, puisque Bernstein quittait New York et Boulez arrivait à New York, et Bernstein dit « Wow, en anglais, j'ai entendu un formidable jeune pianiste !» Et puis là, il dit « Ah oui, Michel Béroff, ben, je l'ai déjà invité à New York !» Et tout, il était tout à fait content de dire ben « Oui, ça y est, je l'ai déjà invité !»
Vous aviez joué avec Bernstein
Le Capriccio de Stravinsky à Londres, pour l'anniversaire de la mort de Stravinsky.
Et avec Boulez?
Avec Boulez, les premières tournées que j'ai faites, avec lui, les premiers concerts, c'était avec l'orchestre de la BBC. Il était toujours à la BBC. Donc, les premières choses que j'ai faites, c'était Éclat. Éclat, donc, est une œuvre magnifique. Vous savez, c'est une œuvre passionnante qui restera certainement dans le catalogue des œuvres de Messiaen, parce que elle ouvre des perspectives qui ont été, Dieu sait, utilisées et développées par beaucoup d'autres compositeurs. Et c'était un plaisir extraordinaire, bon, de pouvoir effectivement choisir un petit peu dans ces petites boîtes comme ça. Quel épisode, voir Boulez faire 4, 3, enfin, et avec des musiciens. C'était de la grande musique de chambre, mais c'était vraiment très, très agréable. Ensuite, on a joué beaucoup les Eaux Exotiques de Messiaen, avec l'orchestre de la BBC. On a joué par la suite, puisqu'il a fait une extension à Éclat, qui s'appelait Éclat Multiple, donc qui est une œuvre qui durait 30 minutes, donc il y avait une partie de piano très importante, pour laquelle d'ailleurs il m'avait promis de m'écrire une cadence qu'il n'a jamais faite, puisqu'en fait il n'a jamais terminé Éclat Multiple. Mais bon, en tout cas, les premières tournées, puisqu'on a fait pas mal de tournées à l'étranger, c'était avec ces trois œuvres-là. Ensuite, il m'a invité directement au New York Philharmonic en 1972 pour jouer le deuxième concerto de Bartok, qu'on avait joué d'ailleurs la première fois, parce que la première fois que j'ai joué, c'était avec lui à Vienne, avec c'était avec l'orchestre de la
radio,
BBC. C'est la BBC à Vienne. Et donc, c'est la première fois que j'ai joué ce deuxième de Bartok, pour lequel j'avais une passion. J'avais 21 ans à l'époque, et bon... J'ai pas du tout souvenir d'avoir souffert en apprenant ça.
D'habitude, on souffre.
Mais quand on est jeune, apprendre des œuvres comme ça, ça va être tout seul.
Vous aviez la main pour ce
type
de concerto.
Ah oui, oui. Enfin, là, pour le coup, je pense que la technique de 5 ans est importante. Et bien, ne serait-ce que, par exemple, c'est une œuvre dans le premier mouvement. Il y a énormément d'accords complexes et d'extensions. Oui. Il faut vraiment avoir des... Là, j'ai pas du tout de problème avec cette œuvre. Et c'est vrai que, bon, j'ai entendu d'autres pianistes à jouer, parfois d'une manière évidemment qui me plaisait plus ou moins. La Palme d'Or, évidemment, revenant à Pollini, qui est de toute manière un de mes pianistes préférés depuis 40 ans. Mais en tout cas, ce deuxième de Bartok, je l'ai appris sans aucun problème. Et donc, on l'a joué. Ensuite, quelques mois après, oui, à peine, je l'ai joué à New York avec lui. Donc, c'était à New York à l'époque.
En quelle année ? 72 ?
72, oui. 72. Il y avait 4 ou 5 concerts. C'était des concerts l'après-midi, les concerts du soir. C'était des séries énormes. En plus, c'était des programmes fatigants parce qu'avant, Boulez avait initié ce qu'il appelait des pré-concerts. Donc, à 6h30, il y avait des pré-concerts où j'avais joué le duo concertant avec le premier violon du New York Philharmonic et puis après Petrushka.
Donc Stravinsky,
Petrushka. Et donc, une heure après, fallait se taper le deuxième de Bartok.
Parce que vous étiez un énorme bosseur. Enfin, là, oui, vous nous parlez d'éclat multiple, de Stravinsky, de Bartok, Turangeli, la symphonie, vous l'aviez déjà à votre répertoire, j'imagine.
Je l'ai joué peu de temps après.
Oui, voilà. Enfin, il faut des muscles, il faut une endurance physique.
Non, mais ça, physiquement, j'ai jamais eu l'impression que. Mais ça, je pense qu'alors, ça, c'est la technique du Sankan qui construit vraiment. Là, j'avais des avant-bras solides, des mains, des voûtes. Là, la voûte, c'est quand même une chose. Là, encore une fois, en tant que professeur, j'ai vraiment remarqué qu'il y a des gens pour qui ça n'existe pas. Mais en tout cas, la voûte, elle était bien travaillée, elle était solide, le poignet marchait bien, l'avant-bras, ça ne me posait pas vraiment de problème plus que ça.
Terrifiante cadence qui conclut le premier mouvement du deuxième concerto opus 16 de Prokofiev par Michel Béroff, l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, dirigé par Kurt Masur. Le podcast et les références des œuvres entendues à retrouver sur la page de l'émission sur francemusique.fr. L'équipe aujourd'hui de ces grands entretiens était constituée de Flora Sternadel, Julien Girard, Benjamin Vignal, Étienne Collin et Gilles Blanchard. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.